Chapitre 6. En désarroi. Léonard de Vinci souffrit souvent de faute d'argent. Il se fiait trop sincèrement à la prodigalité de son génie pour avoir le sens de l'épargne. Les gains de ses travaux n'auraient jamais pu l'enrichir. Il aimait autour de lui voir de belles choses et des êtres heureux, ses élèves et ses amis. Que de fois, à cause de son imprévoyance, ne se trouva-t-il pas dépourvu du nécessaire ? Un jour, il dut humblement, du fond de sa misère, supplier le cœur charitable du duc de Milan. « Je n'ai plus, lui écrivait-il, aucune commission de personne. Si cela continue, je serai contraint de renoncer à la pratique de mon art. J'ai dévoué au service de votre seigneurie mon existence et je suis toujours prêt à la donner. » Mais, il faut bien que je l'avoue, il ne me reste plus rien de ma solde et je suis dans l'impossibilité de payer mes ouvriers. Je ne puis même pas me vêtir d'une façon décente. » Le duc de Milan, qui ne manquait pas de mansuétude à l'égard du grand artiste, lui fit cadeau d'une petite vigne de 16 perches située près de la porte Vertueline. Mais peu de temps après, Louis le Mort était chassé de ses états par les armées de Louis XII. Le modèle du monument de François Sorda fut détruit, ainsi que les peintures dont Léonard avait décoré le palais et ses constructions admirables du palais de Galea San Severino. Il aurait voulu cependant rester à Milan, s'attacher à la personne du prince, quel que fût celui-ci. Hélas, il ne pouvait plus vivre à son gré. Le roi de France, par intérêt autant que par bonté, afin de jouir de la valeur et des œuvres de Léonard, chercha doucement à l'attirer. Le 22 janvier 1507, Pandolfini, ambassadeur de Florence, écrivait de Blois « Ce matin, dans le château, j'ai croisé le roi très chrétien. Sa Majesté, m'appelant auprès d'elle, me dit « Votre seigneurie pourrait me faire un grand plaisir. Je voudrais compter ici, parmi mes serviteurs, votre Léonard, qui, pour l'instant, est à Milan. » Je serais très heureux qu'il consentît à travailler pour moi. Quelles œuvres, répondis-je, Votre Majesté souhaiterait avoir de Léonard? Eh bien, certaines petites peintures de Notre-Dame, et puis d'autres dont l'idée me viendra, et puis encore, il est probable que je le chargerai de peindre mon portrait. C'était la première voix qui, de France, avec une sympathie généreuse, appelait le grand peintre. Il ne devait pas tout d'abord lui répondre avec faveur. Néanmoins, il accueillit du roi, ainsi qu'en témoigne une note de ses mémoires, une pension. 100 écus que j'ai reçus du roi pour une pension de juillet 1508 à avril 1509. Un peu plus tard, Louis XII lui accorda une concession d'eau sur le territoire de Milan et dont Léonard devait toucher le revenu. Léonard se croit de nouveau sauvé de la détresse lorsqu'après les défaites du roi de France en Italie, il est amené à Rome par le plus jeune frère du pape récemment élu. Ce Julien de Médicis, qui a un esprit imprégné de mélancolie, un cœur généreux et déjà fatigué, lui promet de très bonne foi l'aide et la protection des maîtres de l'heure. Il ne trouve bientôt que déceptions et ennuis. Pendant les premiers mois, une pension mensuelle de 400 ducats lui fut peut-être versée. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il s'adonna passionnément au travail. Non pas, pourtant, à une œuvre de peinture, car il voulut étonner le pape Léon X, le flatter dans son goût pour les sciences, dans sa ferveur d'étudiant alchimiste. Afin d'égayer son voyage, il avait composé en cire des animaux si légers qu'en soufflant dedans, ils s'envolaient, jusqu'à ce que l'air qui les soutenait vint à leur manquer. Un soir, sur la route, un vigneron du Belvédère lui présenta un lézard fort curieux. Léonard s'en empara aussitôt, avec le frémissement d'une inspiration qu'exaltait son désir de charmer davantage ses compagnons et ses maîtres. En effet, avec des écailles arrachées à d'autres lézards, il fabriqua des ailes qu'il adapta au corps du petit animal donné par le vigneron. Et chaque mouvement de ce lézard perfectionné provoquait une vibration de ses ailes à cause du vif argent qu'elle contenait. Il lui ajouta, en outre, deux gros yeux, des cornes et de la barbe. et même, ayant eu la patience de l'apprivoiser, il le porta tout le long du voyage dans une boîte d'où, pour effrayer ses amis, il le sortait de temps à autre en riant de malice. Léon X fut amusé par l'invention bizarre de Léonard, par ses trouvailles pittoresques de chaque jour, par ses vastes projets de révolutionner le domaine de l'industrie, de la mécanique. Vasari raconte que, souvent, Léonard faisait nettoyer, dégraisser avec minutie les boyaux d'un mouton et qu'il les réduisait ensuite au point de pouvoir les enfermer dans la paume de sa main. Certains soirs, il s'égayait à des jeux puérils qui ne laissaient pas de surprendre les esprits attentifs et de les amener à réfléchir. Ainsi, après avoir introduit un bout de ses boyaux dans une pièce voisine de celle où il recevait ses amis, il y adaptait un soufflet de forge et, soufflant de toute la vigueur de ses poumons, il gonflait ses boyaux en de telles proportions que les visiteurs étaient peu à peu obligés de se réfugier dans un coin de la pièce et même quelquefois de sortir. Il comparait, non sans ironie, la vertu à ses boyaux transparents. Est-ce que, disait-il, la vertu, par toutes les louanges dont on l'honore et par les apparences que chacun de nous en possède, n'occupe pas une grande place dans nos conversations? En somme, elle se réduit à une bien mince réalité. Soutenu qu'il pensait être par les Médicis, il se livra aisément à toutes sortes d'expériences ingénieuses et de folies, s'occupant, par exemple, de mesurer l'effet des miroirs, d'imaginer des instruments d'optique et pratiquant d'étranges essais de vernis, d'enduits, propres à conserver la peinture. Dans ce temps-là, il peignit, avec infiniment d'amour et de soin, la Vierge et son fils pour Messer Baldassare et Turini da Pescia, datèrent de Léon X. Cet ouvrage est malheureusement aujourd'hui fort altéré, à cause sans doute de la mauvaise impression de la toile et de ses multiples et capricieux mélanges. Dans un autre tableau, il représente un petit enfant que Vasari déclare avoir été une merveille de grâce. C'est peut-être à la même époque qu'il peignit le Saint-Jean qui est au Louvre. Certains critiques ont prétendu, après Charles Clément, que Léonard avait commis une étrange fantaisie que de placer une croix dans la main de cette figure profane, que ce Saint-Jean est une femme et que personne ne s'y trompe, que c'est l'image de la volupté et qu'elle s'impose à l'esprit avec une incroyable puissance et qu'elle reste gravée dans le cœur comme ces souvenirs douloureux et charmants que l'on déteste et que l'on chérit. Mais pas du tout. Les critiques sont encore les dupes d'un mirage. Ce visage de Saint-Jean est très bien celui d'un adolescent, une chair adorable et fine, pétrie d'innocence, de tendresse et de bonheur. M. Charles Clément, d'ordinaire si profondément documenté, si noblement éclairé d'intelligence, poursuit avec enthousiasme son chant de poète qu'enivre le plaisir de la découverte. Je me souviens qu'en me rendant à Rome pour la première fois, je fus arrêté près de Bacano par un accident de voiture. Du haut des collines qui dominent cette pauvre auberge, la vue s'étend sur toute la campagne romaine et sur la ville. Le spectacle que je désirais voir depuis bien des années, je l'avais sous les yeux. Mais cette figure du Saint-Jean de Léonard me poursuivait. Pour amener mon attention sur la grande scène qui m'entourait, je récitais les vers terribles d'Alfieri. C'était en vain, la voluptueuse image ne me quittait pas. Je voyais ses lèvres folles et souriantes, ses yeux enivrés, ses abondants cheveux d'or, et j'entrais dans la ville éternelle, l'esprit hanté par le fantôme de faux dieux de tous les temps. Quel lyrisme, quelle effusion de mots touchants, je ne le conteste pas, et issu d'une âme d'artiste. Mais, encore une fois, le critique s'emporte dans l'erreur. Léonard a voulu, dans le Saint-Jean, composer le visage féminin d'un jeune homme qu'il imaginait bien plus qu'il ne l'avait vu. Et tous les peintres, informés des habitudes, des ambitions et des procédés du maître, vous le répéteront sans défaillance. Léonard aimait une femme qui était la Joconde ou qui possédait à peu près ses traits, ses lignes, sa couleur. Il reproduisait toujours avec la même félicité cette tête pour lui divine et il la cherchait à tous les âges, en toutes les saisons de la virilité. Et un jour, une fois de plus, il peignit l'image amoureuse qui le hantait, qui, dans ses rêves, dans ses études, le caressait de la douceur de ses clairs regards, de la fraîcheur sensuelle de ses lèvres. Et il lui donna surtout, avec ce geste de sérénité candide, ce sourire enchanteur, malicieux, qui l'attirait et bien plus le déconcertait. Il n'a pas osé ranimer par son art une autre femme, plus belle que la Joconde. Il a essayé de la revoir, de la créer de nouveau, sur la toile légère, avec des nuances, une forme incomplète qui a son charme d'abandon. N'osant pas faire un dieu, il a fait presque un saint, ou plutôt un demi-dieu, plein de beauté, de pudeur, de perfection physique et morale. Et d'ailleurs, il n'a pas achevé son œuvre, il en a respecté la facture imprécise dans la suavité de son rêve. Il n'a pas voulu appuyer trop les couleurs de sa palette, de crainte d'enlever à la figure virginale le parfum et la fleur d'humanité merveilleuse que, de souvenir, il avait su, dans un élan spontané, lui rendre. Léonard s'efforçait de distraire ses langueurs. Dans Rome, auprès du pape, il n'avait pas rencontré des sympathies. Au contraire, les politiques du Vatican considéraient surtout en lui le protégé du maréchal de Chaumont et de Trivulse le partisan. Les artistes le regardaient d'un œil jaloux et des artistes puissants, renommés, Raphaël le favori du pape, Michel-Ange l'irascible travailleur qui ne pouvait pas oublier le concours du Palais Vieux à Florence. Alors, plus qu'aujourd'hui, la vie était cruelle aux artistes. Ils dépendaient uniquement de l'humeur de maîtres capricieux et despotiques qui ne voyaient, dans les réalisations de l'art, que des moyens de servir leur prestige personnel. Aussi, lorsqu'un artiste obtenait une commande ou avait conquis une place prépondérante dans une ville, chez un seigneur du pouvoir ou de l'argent, il défendait avec âpreté son bien, veillait sur sa sécurité avec une méfiance constamment alarmée. Que de conflits d'intérêts et d'amour-propre entre les plus illustres, ceux dont la noblesse des œuvres eût interdit, si nous ne possédions pas la confession de leurs contemporains, que la postérité les soupçonna d'avoir été, certains jours, souillés au fond de l'âme par de vils sentiments d'envie, d'astuce et de vengeance. Voyez l'hostilité tenace, sournoise, perfide, de Bramante et de Sangallo contre Michel-Ange, l'ingratitude, puis l'indifférence calculée de Raphaël envers Michel-Ange, leur jalousie à tous les deux contre Léonard de Vinci, qui était leur ancien et qui pâtissait de l'abandon de leur maître commun. Pourtant, Julien de Médicis appuya Léonard auprès de son oncle, le pape, de prières si chaleureuses que Léon X finit par commander au peintre un ouvrage. Ce ne fut sans doute que de guerre lasse et pour éloigner de lui les obsessions de Julien que Léon X céda, car dès le premier prétexte, il fit connaître au peintre son détachement. Voici comment Léonard, avant d'entreprendre son ouvrage, s'était mis à distiller des huiles et des plantes pour composer un vernis nouveau. Ses ennemis guettaient patiemment la moindre de ses défaillances, la plus légère manifestation de sa fièvre de découverte qu'ils appelaient des excentricités. Dès qu'ils l'aperçurent, ainsi qu'un alchimiste occupé à herboriser dans la campagne, puis à faire bouillir ses herbes dans sa cuisine, l'un d'eux courut chez le pape dénoncer sa fantaisie. « Maître Léonard, lui dit-il, ne travaille pas sérieusement. S'il n'est pas tenu dans les limites de son ouvrage comme un prisonnier dans les murs de son cachot, il abusera des largesses de votre sainteté pour vivre selon ses caprices et dans l'oubli le plus complet de vos intentions. » Que fait-il donc? On ne sait trop, ce n'est pas clair. Il songe, paraît-il, à inventer un vernis qui doit servir, très tard naturellement, à recouvrir sa peinture lorsqu'elle sera terminée. Léon X, au lieu de s'indigner, trouva l'extravagance de Léonard si grotesque qu'il se mit à rire. Ensuite, il s'écria « Puisque Léonard pense à la fin de l'ouvrage avant de l'avoir commencé, c'est qu'il ne fera jamais rien de bon. » Le pape se moquait avec dédain, heureux de perdre le peu de confiance qu'il avait bien voulu, par condescendance envers Julien, accorder à son protégé. Léonard ne connut point tout d'abord les méchants complots de ses ennemis ou feignit de les ignorer. Il resta au service du pape. Auprès de lui, sous ses ordres, Julien avait embauché un ouvrier allemand du nom de Georges qui devait, en qualité de manœuvre, l'assister dans la construction de ses instruments et machines. Léonard, toujours généreux, s'efforça par des bienfaits de s'attacher son aide. Celui-ci, suivant la bonne règle trop fréquemment observée des relations entre les maîtres et les serviteurs, chercha bientôt à trahir Léonard et à l'exploiter. D'abord, il s'était engagé à ne servir que lui, à garder secret l'état de ses inventions. Mais, au lieu de rester au travail, il s'en allait chasser les oiseaux dans la campagne, boire du vin dans les guinguettes, de compagnie avec les Suisses de la garde pontificale. Ce jeu d'école buissonnière n'était qu'une peccadille. Léonard, cependant, se méfia. Il eut raison, car, bien qu'il eût poussé la prudence jusqu'à le contraindre de manger avec lui et de ne travailler qu'en sa présence, Georges n'hésita point à lui voler ses modèles et à en chercher le placement en Allemagne. Ce bas escroc était d'ailleurs encouragé dans son crime par un gredin de la même Allemagne, maître Jean des Miroirs, qui osait accuser Léonard de l'avoir évincé des faveurs de Julien de Médicis pour s'y mettre à sa place. Heureusement pour lui, maître Jean savait avec autant de souplesse pratiquer la ruse que perpétuer ses actions mauvaises. Dans les complots tramés contre la fortune de Léonard et dont quelques-uns tendaient à le dépouiller des bénéfices de son labeur et de son génie, il agissait toujours. Léonard ne put jamais y surprendre sa main. Cependant, lorsque Léonard dut quitter son atelier, maître Jean s'y installa bien vite afin d'y fabriquer à son tour des miroirs. Malgré tout, il n'était pas tranquille. La crainte lui venait quelquefois d'être convaincu de ses crimes et de les expier durement. Alors, ne se contentant pas d'avoir soustrait à Léonard ses trésors légitimes, de lui avoir ravi la confiance de ses maîtres et la tranquillité de son existence, il s'ingénia lâchement à le salir de calomnie. Comme Léonard continuait, à Rome, ses études d'anatomie, maître Jean s'en alla trouver le pape et, sur un ton de pudeur scandalisé, il lui dit « Il y a une chose intolérable et que votre sainteté ignore. Le peintre Léonard n'hésite pas, sous couleur de poursuivre ses études d'anatomie, à commettre des sacrilèges. » Comment ça? Mon Dieu, c'est difficile à dire. Votre sainteté lui a donné le droit d'entrer à l'hôpital tous les jours, à 16 heures. Mais il ne se borne pas à examiner les malades, à observer la dissection des cadavres. Ce qui le préoccupe surtout, c'est de rencontrer, auprès des malades ou des convalescents jeunes et beaux, des occasions de satisfaire une curiosité sensuelle, perverse. Je n'aurais pas cru. Ni vous, ni personne. Tout le monde a honte. Il faut que cela cesse. J'aviserai au moyen. Il n'y en a qu'un. Lequel? Celui d'interdire à Léonard le séjour de Rome. Léondise réfléchit un instant, troublée par la gravité d'une telle résolution. « Je vous remercie, conclut-il, pour aujourd'hui, laissez-moi. » Léondise hésita, par politique, à chasser de Rome le peintre illustre, vers lequel pouvaient, au moins par compassion, revenir aussitôt ses puissants protecteurs, prince d'Italie, roi de France. Il donna simplement l'ordre au directeur de l'hôpital d'en défendre l'accès à Léonard. Celui-ci sentit l'injure très vive. Il comprit qu'autour de lui, l'hostilité de ses rivaux grondait plus menaçante. Pour comble de misère, son ami Julien de Médicis quitta Rome pour aller en Savoie se marier. Et le même jour, Louis XII, le roi de France, mourait. Pauvre, délaissé, Léonard se trouva un long moment sans courage, sans espérance. En quel lieu d'intelligence et de bonne volonté irait-il porter son cœur plein de l'amour des choses de la terre, son esprit toujours inquiet de créations nouvelles? En quel lieu de bonté irait-il demander asile pour sa personne glorieuse, qui illustrait davantage encore le malheur? Il regardait en vain autour de lui, fort désemparé, le monde nombreux et lâche des courtisans, des artistes que la jalousie dévorait. Il ne voyait aucun secours, lorsque, brusquement, il apprit que Léondis confiait à son terrible rival Michel-Ange l'exécution de la façade de San Lorenzo. Ce fut pour Léonard la suprême défaite. Il décida de quitter Rome. Mais, encore une fois, où aller? Le miracle se produisit pour son salut. Après les plus orageuses tempêtes, il arrive souvent que le soleil brille dans un ciel paisible et souriant. Ainsi, Léonard vit, avec un frémissement de joie, s'éclairer sa destinée, le jour où il apprit qu'un autre roi de France, jeune et hardi, dans un élan de rêve et d'ambition vers les pays du soleil, venait de franchir les Alpes. François Ier a porté, parmi l'éclat de ses victoires, au grand homme de Florence renié par sa patrie, les hommages et les promesses d'une patrie nouvelle.